Monkeys, et oui, à tout à l'heure, arrive.
Blue Monkey, on fait au plus vite,
Let's go.
Échauffez-vous,
bisous,
hydratez-vous, on arrive.
Et voilà.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Sport. Un beau programme qui vous attend ce soir, je trouve, avec des sujets intéressants autour desquels on va débattre. Avant de vous présenter ces superbes sujets, je vais vous présenter les gens qui vont m'accompagner ce soir. Avec, pour démarrer à ma droite, à la régie, Cédric. Salut Cédric.
Et salut tout le monde.
T'as passé un bon week-end ?
Bah écoute, week-end de repos surtout, hein. C'est les choix de reprendre le travail, hein. Les formations, on a beau dire, hein, que c'est peut-être des fois plus simple que le travail, mais en tout cas, ça fatigue deux fois plus le cerveau.
Ah. Et sportivement, t'as eu des...
Bah sportivement, écoute, on a suivi un petit peu la demi-finale du handball.
Ouais.
La finale, bah hélas, je pensais que c'était beaucoup plus tard, donc j'ai vu très peu le match.
Dommage, c'était un beau
Et puis bon, on a suivi surtout cette semaine avec un regard plus ou moins appuyé sur la Coupe d'Europe.
Et
enfin,
oui,
sur les Coupes d'Europe.
Et oui, tout à fait. On reviendra dessus évidemment tout à l'heure. En face de moi, Clément. Salut Clément.
Salut Faustin, salut à tous. Moi j'ai une
bonne nouvelle à vous annoncer, puisque ça y est, je vais jouer en région à la prochaine, enfin jusqu'à la fin de l'année, puisque on a gagné notre match ce week-end et on est donc qualifié pour la région. Et si j'ai bien compris, toi Faustin, ça a été un peu plus compliqué.
Ça s'est mal passé. Moi, je pouvais toujours pas jouer, j'étais blessé. Oui. On a perdu dès la demi. C'était juste le format demi-finale finale. Dès la demi-finale, alors qu'on est de 10 points à la mi-temps, on a pris une grosse remontada, c'était terrible. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, l'équipe contre qui on a perdu, ils ont perdu en finale. Comme ça, on se rejouera en D1.
Montreuil, non?
C'est voilà, tout à fait. Montreuil, c'était le derby. Donc, on se rejouera en D1 et je pourrais les taper cette fois.
C'était format aller simple ou aller retour?
Ouais, c'était un espèce de final four finalement. Ouais. C'était à beaucoup usé, tu vois. Et c'était juste des matchs plus courts. Donc, voilà. Et c'est Beaucouze du coup qui est monté, si vous voulez savoir. Ils ont gagné contre Brissac puis contre Montreuil, du coup bravo.
Ouais, Beaucouze qui apparemment depuis un moment, depuis quelques années aussi, construit des belles équipes.
Ouais, ça faisait là en U20, ça faisait un certain temps qu'ils voulaient aller en région, qu'ils y arrivaient pas. Et ben ils ont enfin réussi.
Ah bah voilà, du coup on en profite pour les saluer.
Bah voilà, si nous écoutent nos chers amis du club de Beaucouze. On va au sommaire ce soir. On a les actus locales avec toujours le SCO au foot qui continue de gagner, le basket avec nos clubs locaux qui ont fait des résultats pas top pour tous. En international, on parlera évidemment pendant un certain temps des tirages de Ligue européenne. On a aussi le hand et un peu de ski de fond. Et aussi Clément qui nous présentera une chronique sur le surf qui débarque au JO. Enfin, il débarque pas, mais
oui,
il est là. Ce qui va se passer pour les JO de Paris.
Qui va être à cette deuxième édition.
Voilà, deuxième édition.
Tout à fait.
On va
commencer. Ouais,
je vais pas spoiler, mais ce sera mieux dans tous les cas.
On va commencer sans plus tarder avec le SCO foot. Clément, tu nous as préparé un truc. Oh,
ouais, c'est ça. Les joueurs d'Alexandre Dujeu ont conforté leur première place en s'imposant en terre troyenne ce samedi. Les Angevins aussi se ressaisir après avoir mal commencé la partie, puisque c'est Florent Hanin, par un but contre son camp, qui donne l'avantage aux Troyens. Les Angevins vont revenir dans la partie, et même plus que ça, puisque grâce à 3 buts marqués en l'espace de seulement 3 minutes, et oui, les Angevins ont mis 3 buts en 3 minutes, je crois que c'est un record cette saison, toutes compétitions confondues en France. Donc c'est d'abord Capel d'une magnifique frappe qui ouvre la marque. Ensuite Zinedine Ferrat récupère la balle haute et double la mise. Une minute plus tard, c'est au tour de Loïs Diony, El Toro Loco, mais les scoïstes ont deux longueurs d'avance avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Abdelli va sceller le score à 4-1. Grâce à cette nouvelle victoire, le SCO garde sa première place avec 2 points d'avance sur Auxerre et 3 sur Laval. Un match entre Laval et Auxerre ce soir déterminera sûrement le deuxième. Et il y a également un match pour le SCO qui joue contre Guingamp ce soir à 20h45 pour ensuite aller tranquillement en trêve hivernale.
Ouais, voilà, c'était un super match du SCO, franchement. Moi, je trouve que c'est des trucs qu'on, l'année dernière, on les voyait vraiment pas. On se prenait un but, jamais de la vie, on pouvait remonter. Et là, on en met 4, quoi. C'est fabulé, surtout 3 d'affilée.
Ouais.
Et des beaux buts en plus. Hein,
oui.
C'est voilà la niaque qu'ils avaient un peu perdue l'année dernière.
Exactement.
Et qu'ils retrouvent cette année, c'est magnifique. Parce qu'en plus, Auxerre avait gagné juste avant, plutôt dans la journée. Du coup, ils étaient provisoirement premiers avant que le SCO joue.
C'est ça.
Et tout le monde disait, oh là là, j'ai vu des trucs passer sur Twitter, n'importe quoi, le SCO ne remontera plus jamais premier, etc. Hop,
et bah tiens,
fermez des bouches directement. Et en plus, Laval Auxerre ce soir, ce qui nous arrangerait, j'ai envie de dire, c'est un match nul.
Oui, c'est ce qui nous arrangerait. Après, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour Laval. Ils connaissent un petit coup d'arrêt en ce moment-là. Ils
n'arrivent
plus trop à gagner. Mais oui, un match nul, ce serait parfait.
Ouais. Et est-ce que tu as peut-être la compo, Clément?
Elle n'est pas encore sortie. Je te redonne ça.
Tu nous diras si elle sort pendant l'émission. Le match est à quelle heure?
20h45.
Donc on aura le temps peut-être de voir un petit but avant de signer la fin de l'émission.
Si le SCO est efficace.
Voilà. En tout cas, j'espère un but dans les cages Guingamp.
Oui.
Voilà pour ce qui est du SCO foot. On va passer au basket avec d'abord l'EAB qui subit une nouvelle défaite. Cette fois, c'était contre Pau, sur le score de 83 à 92. Alors même si, j'ai envie de dire que les Angevins ont été vaillants, ils étaient largement menés un peu avant la mi-temps, ils sont super bien venus avec une farandole de dunk. C'est mine de rien déjà la huitième défaite, pas consécutive, mais déjà la huitième défaite des Angevins en seulement 11 matchs. Ils sont 16e au classement. C'est très mal parti. J'espère qu'ils vont vraiment se remettre pour au moins assurer le maintien, quoi. Ce serait dommage de les voir redescendre. Alors que l'année dernière, ils avaient fait une belle saison où ils sont allés jusqu'en play-off. Voilà. Maintenant, du côté des féminines, elles ont démarré avec une défaite dans le match aller de Roku face au club polonais de Wielkopolski sur le score de 74 à 67. Ça fait donc 7 points d'écart que les Angevines auront à remonter demain soir à 20h à Jambouin. Et sinon aussi, elles ont joué un autre match. C'est une deuxième défaite de la semaine. C'était contre Tarbes sur le score de 57 à 49. C'est dommage, c'était face à un concurrent direct cette saison dans le classement. Et en plus de ça, on a appris la blessure de Leila Lacan, qui s'est donc blessée pour 8 semaines, d'après les dires du club, avec une entorse au genou. Et le club chercherait déjà une pigiste pour la remplacer ce temps-là. Mais bon, à mon avis, c'est impossible même, j'ai envie de dire, de remplacer quelqu'un qui a l'impact de Leila Lacan pour 8 semaines là. Et c'est un coup terrible avant le match de demain qui arrive contre du coup dans le match retour de 16e de finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Ah bah c'est jamais de toute façon le bon moment pour se blesser, mais on va te dire quelque part heureusement qu'il y a la trêve de Noël qui va arriver.
Ouais, ça va lui permettre de se reposer.
Ça va lui permettre de se reposer, à toute l'équipe aussi de se reposer. Il y aura toutes les têtes vont revenir un peu plus fraîches. Sachant que le club cherche quand même un joker médical.
Ouais.
Donc, à voir. Je pense que s'ils ont l'idée de faire venir un joker, c'est qu'il y a peut-être des doutes que ce soit peut-être un petit peu plus sérieux.
Oui, parce que 8 semaines, après, ça, avec les 3 semaines de trêve qui vont arriver, un peu plus même.
C'est ça. Enfin, les genoux, pareil, c'est quand ça lâche, ça peut être. Ouais. Anodin, mais moins grave qu'on ne le pense. Donc, je pense qu'ils attendent aussi des examens complémentaires. Je sais pas réellement quand est-ce que ça a lâché. Je sais pas si toi, t'as vu la.
Je pense que ça a été un peu après tard, soit pendant le match et ils ont voulu faire des tests et ça a pas fonctionné. Et voilà, soit un entraînement un peu après. Mais voilà.
Heureusement, voilà, il y a pas de match en équipe de France non plus qui va arriver dans l'immédiat. Donc bon, c'est pour ça au moins qu'elles prennent du repos. Pour elle, c'est vrai que ça va être une année logiquement de marathon quand même. Pas mal de matchs à jouer avec Angers, mais aussi avec le projet quand même équipe de France pour les JO. Donc quelque part, vaut mieux se casser, j'ai envie de dire, fin décembre que
vers la
début
fin,
avril. Voilà, ça pourrait remettre beaucoup de choses en cause. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement et que demain. L'équipe trouve les ressources pour aller chercher ces 7 points déjà pour revenir au score. Et puis, limite, de le dépasser d'un petit point pour continuer cette aventure européenne. C'est vrai que ce format-là, soit on l'aime, soit on le déteste.
Ouais. Moi, c'est un truc que j'aime pas trop. Dans des phases éliminatoires comme ça, faire match aller-retour au basket, en tout cas, je trouve ça pas génial.
C'est surtout, du coup, ça t'enlève le côté du troisième match.
Ouais.
Qui pourra avoir lieu, effectivement, en termes de
terrain, etc. C'est un truc intéressant qui est vu souvent, en plus.
Mais je pense que ça va être compliqué, quand même, de recoller au score pour que ça finisse à égalité et que derrière, en fait, tu joues les prolongations.
Ouais, c'est vrai. Et puis, je sais pas, on avait vu ça aussi l'année dernière. Je me souviens que Cholet, qui avait joué la finale de Coupe d'Europe aussi, et pareil, c'était sur un format match aller, match retour. Et fin de match, il gagnait de genre 3 points, mais il devait gagner de 5 pour remporter la coupe, quoi. Et vraiment, je sais pas, c'est bizarre de dire que t'as une équipe qui est en train de perdre, mais qui essaie quand même de gagner du temps pour pas se faire rattraper et qui essaie de pas de gagner. Et je trouve que ça enlève vraiment un truc au jeu. Ça brise vraiment le jeu dans les fins de match un peu serrées. Parce que là, j'imagine qu'elles vont pas se rendre un carton ou elles vont pas ça va pas être un blowout ce match et que la fin du match risque d'être serrée. En tout cas, je l'espère.
Je pense que même l'entrée de jeu risque de.
Oui, tout le match risque d'être serré.
Hein, parce que là, tu sais que tu as les 7 points, tu vas aller chercher très vite les 3 points, je pense.
Ah ouais, ça. Et pour. Alors, en tout cas, on espère qu'elles vont quand même réussir. On espère qu'il y aura du monde dans les tribunes, je pense.
Je pense. Les deux matchs que j'ai vus, le public est là pour la Coupe d'Europe et. Je pense qu'il y aura, peut-être encore plus d'envie d'être là si jamais ça doit s'arrêter.
Ouais.
Autant que ça se finisse, j'ai envie de dire, on a apothéose niveau record d'affluence. Quoi.
C'est clair. Et, là, j'espère.
Et que ça continue après cette affluence sur le championnat. C'est aussi ça aussi.
Permet
au club
ça...
de se promouvoir via la Coupe d'Europe, d'amener du...
Parce que là, ça va aussi un peu moins bien en Coupe d'Europe. Et là, la blessure de Lacan va pas aider à ça. Et on espère qu'elles vont tout de même arriver à s'en sortir, en tout cas avant la trêve, pour se reposer un peu dans la tête et dans
et
le
puis,
corps.
Et puis turnover aussi sur les joueuses américaines.
Pour le
match de demain.
Ouais, y a des joueuses du sac, les quotas de joueurs.
Ouais, ça pareil. Je comprends qu'on impose des quotas entre parenthèses, mais off. Ça devrait être ton 5 de la saison plus tes réservistes engagés sur tes feuilles de match en début de saison qui devraient pouvoir la faire. Et...
Ouais, je suis d'accord.
Après, effectivement, ça évite les abus qu'on a vus, notamment dans le milieu du foot à une époque, mais bon.
Et ça bloque un peu, moi
ça
je
bloque,
aussi,
voilà, c'est
dans le recrutement, etc. Parce qu'il y a plein de talents aux États-Unis, et si on peut pas les exploiter en Europe, ça bloque un peu le jeu et les transferts, tout ça. Mais bon.
Par contre, ça permet effectivement, en tout cas, au centre de formation de sortir des joueuses un peu plus jeunes pour ces matchs-là. Fin.
Ouais, c'est clair. Et j'espère qu'elles brilleront. Hein.
Et voilà.
En plus, avec la blessure de l'Alécan, ça donnera encore plus de temps de jeu aux jeunes. Je pense notamment peut-être à Marine Dursus qui va gratter un peu de temps de jeu. Bon, voilà, on a fait une grande partie sur le Fab. La dernière équipe locale, c'est Cholet, qui ont enfin gagné en Betclic Elite. C'était contre Blois sur le score de 80-78. Là aussi, on a eu peur, ça gagne que 2 points, mais ça permet au moins au Cholet de mettre fin à une série de 7 défaites. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais c'est clairement pas suffisant pour nous rassurer sur l'avenir de l'équipe en Betclic Elite. Cependant, ils jouent contre Tenerife demain soir. Et là, s'ils gagnent, ils finissent premier de leur groupe de Champions League. Ils seront qualifiés directement pour les 8e. Et s'ils perdent, ils devront passer par le play-in, c'est-à-dire qu'ils rencontreront le 3e de leur poule, qui est du coup soit le club de Riga, soit le club de Darussafaka, en fonction de qui l'emportera aussi dans leur confrontation. Et le format du play-in, c'est justement au meilleur des 3. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'avantage du terrain pour le 2e, donc ce sera pour Cholet s'ils finissent 2e. Avec un match à Cholet, un match au gagnant de Riga contre Darussafaka. Et enfin, s'il n'y a pas une équipe qui a gagné les 2 matchs, le dernier match se jouera à Cholet et le gagnant sera qualifié donc pour les 8e de finale.
On retourne un petit peu ce système-là au hockey où on sait qu'on va avoir une série de 4 matchs et généralement c'est sur le 5e match ça peut se décider de qui reçoit, mais ce format-là, je le trouve plutôt sympa, du coup.
Ouais, c'est ce qu'on voit plus souvent en général, comme dans les trucs à phase à l'émission directe, dans le basket ou même justement dans le hockey.
Bah, ça permet, ne serait-ce qu'aux supporters qui ne peuvent pas se déplacer, de profiter aussi des potentiels derniers matchs, quoi.
Ouais, voilà, des matchs à grands enjeux. Voilà pour ce qui est du basket local. Un petit point sur les Ducs, même si ils ont pas joué la semaine dernière ni ils ont pas encore joué de la semaine parce que ce soir il y a les demi-finales de Coupe de France et il y aura le deuxième match demain. Mais cependant ils reprennent.
Attention surprise dans cette Coupe de France.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ah rien, mais c'est je suis sûr qu'il peut avoir une surprise au vu des cartes.
Moi aussi, je me suis dit.
Aux cartes. Opposé.
Je crois que tu allais nous annoncer une super surprise.
Ouais, ouais.
Les Ducs sont repêchés.
Non, mais je pense que oui, on peut. Notamment l'adversaire des Ducs. Je pense que s'il est en demi-finale, c'est bien qu'il y ait une raison, c'est que je pense qu'il y a eu un gros gros travail.
Ouais.
Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé pour cette Coupe de France et je serais pas surpris de les voir en finale et
pas décrocher.
Peut-être d'aller titiller et pourquoi pas d'aller chercher le titre. Ouais.
On sait jamais. Hein,
ils ont quand même sorti des gros cylindrés. Donc, voilà.
C'est la magie de la coupe finalement. Mmh. Mais sinon, du coup, les Ducs, ils rejouent. Ce sera vendredi contre Cergy.
Ouais.
Voilà. Et après, ils jouent même là. Ils sont deuxième, je crois, il me semble.
Oui, c'est ça.
Ouais, ça, ils sont deuxième avec maintenant autant de matchs que tout.
Bah, que tout le monde.
Ouais, ça, que tout le monde.
Ça, tout le monde est à 23 matchs.
Voilà. Donc, c'est parfait. C'est un bon début de saison pour les Ducs, mine de rien.
Ouais, puis avec 6 points d'avance sur Grenoble.
C'est
qui, mine de rien, on va dire, avant l'arrivée de la nouvelle année, n'est pas négligeable.
Ouais. Ça fait 3 victoires pour ceux qui.
À peu près, oui. C'est ça.
Bah voilà, ça fait plaisir les Ducs qui sont en forme. On va maintenant passer au SCO Hand. Clément, qu'est-ce qui s'est passé pour le SCO Hand?
Le SCO recevait le premier de Pro League. Les Angevins s'attendaient à un match assez compliqué et ça a été le cas puisque les SCOIS commencent très mal ce match. À la mi-temps, le score était de 13 à 23 en faveur de Tremblay qui est toujours invaincu cette saison, je le rappelle. Le SCO va alors réussir à réduire l'écart de seulement 4 points, mais ça ne sera tout de même pas assez pour faire tomber Tremblay. Le SCO se classe désormais à la 8e place et devra continuer les bons résultats en deuxième partie de saison pour se maintenir, puisqu'ils joueront leur dernier match avant la trêve hivernale face à Billière demain soir.
Voilà, c'est pas si mal, j'ai envie de dire, comme bilan pour le SCO.
Oui, bah, ils sont pile au milieu du classement et puis. Bon, je pense qu'ils attendaient pas mieux que ça, puisqu'ils viennent de monter, on le rappelle.
Ouais, ça.
Je pense que oui, c'est raisonnable.
Il y a 2 ans, justement, ils étaient descendus, ils avaient connu une saison assez catastrophique. Et là, bah, ils sont
à leur place.
Voilà, ils sont dans le milieu de tableau, c'est long, on attendait, ça fait plaisir, c'est cool. Avant la trêve.
Ouais.
Voilà, c'est.
J'ai la compo du SCO
si
tu veux bien. Donc, le SCO va évoluer en 4-4-1 avec du classique, j'ai envie de dire. Yaya Fofana au goal. En défense, Valérie à droite. Bamba Utunji dans l'axe et Lefort à gauche. Ensuite, un milieu à 4 avec Capel et Lopi dans l'axe. Capel, capitaine, bien sûr. El Melali à droite et Ferrat à gauche. Et une attaque Abdelli Diony. Et on le rappelle, Vincent Manceau est parmi les Guingampais, même s'il n'est pas sur le terrain. Le natif d'Angers sera au stade Raymond Coppa.
J'imagine qu'il aura droit à son petit hommage à un moment
du
public qui saura y faire. Voilà pour les actus locales de cette semaine. On va passer à la chronique de Clément. Et tu vas nous parler du surf au JO.
C'est ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre fil rouge de l'année, c'est bien sûr les JO qui se dérouleront à Paris en 2024. Je vous ai déjà parlé du breakdance, qui est un sport qui entre au JO maintenant dans 8 mois. On va maintenant aller à l'autre bout du monde, puisque le surf ne se déroulera pas à Paris, parce que il n'y a pas trop de vagues, mais bien à
Tahiti.
Comment
ça ? Il n'y a pas de vagues dans la Seine.
Non, ils ont réussi à y mettre la natation, mais de faire des vagues, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va aller à l'autre bout du monde, à Tahiti, dans le mythique spot de Teahupo'o. Et pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous allez me dire que le surf a déjà fait son apparition au JO en 2021, bien sûr, à Tokyo. Mais Cédric peut vous le dire, cela n'a pas été une réussite.
Bah, quand t'as pas de vagues, effectivement, c'est plus compliqué.
Voilà, donc le surf, on va dire qu'il peut peut-être faire sa vraie entrée cette année, puisque le spot de Teahupo'o est bien connu dans le milieu du surf, et c'est vraiment, il y a plusieurs mondiaux qui s'y ont déroulé. Donc,
même en termes de paysage, je crois que
ça va être quelque chose
largement au-dessus de ce qui avait été fait la dernière fois.
Logiquement, le soleil sera bien présent.
Ouais, voilà.
Donc, je vais déjà revenir aux bases. Le surf, c'est une pratique hawaïenne qui voit le jour dans les années 1920 et elle se répand un peu partout dans le monde, d'abord comme un loisir, puis dans un second temps comme un sport renommé, puisque les premières compétitions font leur apparition au début des années 90, et le sport se professionnalise de plus en plus, jusqu'en 2021, où il va faire sa grande apparition aux JO. Vous savez sûrement que ce qu'est le surf, mais vous devez vous demander comment peut-il être jugé ou noté. Eh bien, tout simplement, nous avons 5 juges qui sont chargés de noter en fonction de la variété, du type ou de la difficulté des figures, ou bien même par rapport à d'autres éléments comme la vitesse, la puissance et même le flow du surfeur.
Cheveux longs, requis obligatoire.
C'est ça. Il y a aussi différentes catégories comme l'évolutive, le fish et le shortboard, qui sont des types de planches, mais on utilise celles-ci comme des catégories. Et le shortboard, c'est celle qui va être utilisée au JO, puisque c'est la plus connue, c'est la planche basique, comme vous l'avez déjà tous vu, je pense. Donc le surf sera donc presque une épreuve nouvelle. Et c'est notamment... nous pourrons y voir évoluer 24 participants, pardon, pour les femmes comme chez les hommes. Donc pour finir, nous pourrons suivre pour l'instant 3 Français qui sont qualifiés, puisque les candidats ne sont pas encore tous admis à cette épreuve des JO, car il y a encore des mondiaux qui n'ont pas été faits. Il y a donc 2 femmes, Johan Defay et Vain Fierro, et un homme, Kaoli Vast, qui sont qualifiés. Affaire à suivre, j'ai envie de dire.
Bah merci Clément pour cette belle chronique. Et on va passer à la pause musicale, c'est vrai que si tu n'as rien à rajouter.
Non, bah on va juste espérer que les vagues soient vraiment belles. Ouais. Normalement, on est sur un des plus beaux spots au monde, et ça devrait bien se passer en tout cas.
Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire, du coup pour suivre l'épreuve, ça sera un peu en décalé vu que c'est à Tahiti, avec le décalage horaire, ça sera sûrement dans la nuit.
Voilà. Pour ceux qui suivent la NBA ou la NHL ou la NFL,
pas de problème.
Vous avez l'habitude finalement, ouais, j'ai envie de dire.
Oui, puis au moins on aura des choses à voir le matin.
Oui, c'est oui. Ça. Oui.
Quand il n'y aura pas d'épreuve, tu vois, ouais. ça décalera un tout petit peu.
Oui, il y aura des résumés, je
c'est
pense.
C'est ça, je pense que les finales sont plus en matinée ou des choses comme ça.
Voilà, comme ça on aura du sport toute la journée, c'est parfait. On va passer à la pause musicale maintenant que Cédric tu nous as préparé, il me semble en rapport avec ce que vient de dire Clément.
Ben voilà, on va rester dans le thème, on va profiter d'Hawaï et des vagues. On va écouter Hawaï Roller Coaster Ride. Et c'est tout de suite.
Oh, camping out with a convicted criminal. And then, oh, I have my head chewed on by a monster!
Something is not right. 626 is returning willingly to water.
Oh, hold on, Mom, another call.
Mr. Blinky, you are overdue. I want a status report.
Oh, well, things are going well.
He cannot swim.
They're going well. Jumba, are they going well?
Why will he risk drowning?
Jumba? Jumba, help me out here.
I would have expected you back by now with 626 in hand.
Just a few things left to pack, and we'll be...
Hang up. We are going swimming.
Huh?
There's no place for us to be. Lingering in the ocean blue.
Il est 20h31, vous êtes de retour. Il est 20h31, vous êtes de retour avec nous dans les studios de Radio G. Vous nous écoutez depuis le site internet www.radio-g.fr ou depuis le 101.5 FM. Et on va tout de suite passer aux actualités internationales. On va démarrer avec la Ligue 1, que tu as préparé, Clément.
Ouais, on a bien commencé le week-end. Enfin, ça dépend du point de vue, mais une victoire de Lyon fait du bien dans tous les cœurs, je pense. 1-0 surtout face à des Monégasques qui étaient en confiance. Lyon passe à la 16e place. Et bon, après, c'est mon avis, mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir, franchement. C'était la dynamique qui était peut-être mauvaise. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir.
Faut pas perdre cette dynamique, hein, là, c'est clair. Ce qu'on a vu, ils peuvent sombrer, hein.
Oui, c'est sûr.
Et en tout cas, c'est Alex qui doit être content une fois de plus.
Oui.
Ouais, c'est les parieurs qui sont un peu moins contents. Enfin, celui qui a bien misé sur Lyon, à mon avis, il a dû se régaler.
Ah, les cotes doivent être élevées. Hein.
C'est ça. Ensuite, encore une autre surprise, puisque Nice a perdu 3-1 face au Havre. Ensuite, Lens gagne 2-0 contre Reims et continue, j'ai envie de dire, la bonne dynamique. Brest s'impose 2-1 à Nantes. Metz s'incline 1-0 à la maison face à Lorient. J'ai pas noté. Bon, le match entre Toulouse et Rennes se solde sur un 0-0. Strasbourg bat Lorient 2-1. Marseille continue sa lancée en sortant victorieux du match face à Clermont. Et le week-end se clôt sur un 1-1 entre Lille et le PSG.
Avec un but en plus à la 95e David, le buteur lillois. Voilà pour ce qui est de la Ligue 1. On va passer à une grosse page d'actualité concernant les matchs européens de football, évidemment. Et on va commencer avec les résultats de la semaine dernière, notamment pour le PSG.
Oui, puisque le PSG nous a donné un nul très décevant face au Borussia Dortmund qui sauve le PSG à la différence de but avec Milan. Donc grâce à un but du titi parisien Warren Zaïre-Emery, les Parisiens peuvent se qualifier pour le tour précédent et ils ont eu un tirage pour ma part plus ou moins mitigé face à la Real Sociedad. Ensuite,
on peut revenir, je pense, sur le match du PSG.
Oui, parce qu'il y a quand même des choses étonnantes, ne serait-ce que dans l'arbitrage.
Oui, ou même sur le choix du coaching.
Sur le choix du coaching aussi.
Moi, c'est pas ça qui m'étonne.
Parce que, du coup, il y a 1-1 dans le match. Et Luis Enrique apprend que Milan gagne 2-1. Donc le PSG.
Et que le match à Milan est terminé.
Voilà, le match. Même avant qu'il se termine.
Même avant. Ouais.
Parce dès que Milan
il joue facilement une vingtaine de minutes.
Voilà. Et du coup, à ce moment-là, le PSG n'arrêtait pas d'attaquer, était vraiment proche de marquer un but en plus. Et à ce moment-là, quand Milan gagne et que le PSG est provisoirement deuxième, ils arrêtent de jouer. Et ce qui a rendu fou Mbappé qui voulait absolument
et
jouer.
Lucas Hernandez aussi.
Lucas Hernandez, mais c'est ouais voilà.
Mbappé, des mecs qu'on la niaque quoi.
Voilà, c'est ça. Il savait depuis des années, il finissait deuxième, il se tape des gros.
Bah, puis
des gros
clubs. Surtout que t'as aucune garantie que derrière.
Voilà.
Le score change quoi. Enfin.
Bah, là, il y avait surtout qu'il y avait. Après, tu pouvais taper le Bayern, City, le Real. Bah, il y avait tous les gros.
En étant deuxième, t'es vraiment pas assuré de passer en huitième, quoi.
C'est ça.
Et du coup, ils ont complètement arrêté de jouer. Bon, ils sont passés. Hein. C'est ça, au final, en choix, le choix de coaching a été bon. Dans l'esprit, tout s'est passé comme prévu. Mais peut-être qu'ils auraient pu aller chercher plus.
Bien sûr.
Et je sais pas de ce que vous en pensez, mais à mon avis, de ce que j'ai vu du match, ils pouvaient clairement leur en mettre un.
Ah déjà, quand tu vois que l'action qui amène le deuxième but parisien refusé pour un hors-jeu, je sais pas ce que t'en penses.
Si, il y a hors-jeu.
Il y a hors-jeu?
Oui, bah,
parce que moi, je trouve, enfin, c'est.
Le problème avec la VAR, tout ça, c'est que maintenant, même s'il y a une moitié de corps qui dépasse, c'est hors-jeu et c'est quelque chose de problématique parce que au final, Mbappé, on sait très bien qu'il va plus vite que tous les défenseurs et même s'il avait ce demi-corps de retard, je pense que ça l'aurait pas empêché d'aller marquer, mais bon, c'est les nouvelles technologies, ouais, c'est comme ça, on peut rien
faire. Je trouve que c'est un peu au détriment de la nature du jeu, tu vois.
Mais
en tout cas, enfin, s'il l'avait marqué, par contre, c'était une très belle action.
Oui.
Et là, rien à dire, ça fait un peu penser au but lensois dans la construction, je trouvais.
Oui, c'est ça.
Et voilà, ouais, après, je comprends pas que tu. Alors, il reste 5 minutes de match, t'es dans les prolongations, tu te dis, bon, ok, on va pas jouer au con, on peut s'en prendre un très facilement, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, jouer quasiment 20 minutes. La passe à 10.
Alors qu'ils dominaient, mais vraiment, quoi.
Ouais, ouais.
Dortmund, ils n'avaient pas une seule fois le pied sur le ballon. Hein. Ils ont mis un but, je crois que c'était reprise de la deuxième mi-temps. Ouais. Et après ça, plus rien.
Le problème du PSG, ce qui va leur porter défaut par la suite, à mon avis, c'est leur manque d'efficacité devant le but. C'est flagrant. Enfin, tout ce qu'ils ratent, à partir de la 10e minute jusqu'à la 35e, ils ont un énorme temps fort où ils ont l'occasion de marquer plusieurs buts, à l'image de Mbappé qui, c'est un très beau sauvetage
de Schüller.
Il y a aussi Kolo Muani qui en a raté pas mal et, enfin, je pense que ça va leur porter défaut parce que toutes les grandes équipes, ils ont une action, ils marquent. Là, le PSG, ils ont besoin de 5, 6, 7 actions et ils sont sauvés par un gars de 17 ans qui va faire sa dictée le lendemain en cours. Je sais pas ce que ça va donner après, mais bon, ça va. Ils sont tombés contre la Real Sociedad.
Ouais. Puis en plus, Emery aussi, il était incertain avant le match. Heureusement qu'il a joué. Parce que, encore une fois, mais quel match de Emery, hein. Il sauve le milieu de terrain du PSG. Hein. C'est fou que ce mec de 17 ans, il porte l'équipe sur son dos, limite. Hein.
Après, l'arrêt, son premier tir franc du match, 1000 fois tu le tires comme ça, allez, elle rentre 1000 fois, normalement. Et là, c'est vraiment...
Avec le sauvetage.
Avec le sauvetage, oui, c'est un sauvetage qui vient de nulle part. Enfin,
ouais, non, vraiment. Moi, je l'avais dit la semaine dernière, j'avais un peu peur pour le PSG ce soir. Et vraiment, j'étais rassuré. Hein. J'ai vu le match, je me suis dit, parfait. S'ils continuent comme ça, ils vont le faire. Faut juste que ça rentre, parce qu'ils ont tapé le poteau, il y a eu le sauvetage, il y a eu le hors-jeu. Il y a eu un peu de fait de jeu quand même, tu vois, mais.
Surtout que c'est Newcastle, en plus, qui ouvrait le score.
Ouais, c'est ça.
Ouais, au début, c'était pas
qualifié. À l'opposé, enfin, c'est.
Ils ont eu chaud quand même. Ouais. C'est ça, ils ont pas été qualifiés toute la soirée. Donc, mais bon.
Mais, juste pour revenir sur Zaïre Emery, je le trouve vraiment épatant, ce joueur. Mais sur le terrain, t'as l'impression qu'il a 30 ans de plus que tous les autres.
Ouais,
il est là, il était même sous pression, il arrive à garder le ballon, il posait le jeu. Alors que quand tu vois j'ai l'impression qu'il fait partie des meilleurs milieux du monde, alors que ça fait même pas un an qu'il est au devant de la scène et il est épatant.
Ouais, après, si on pouvait le laisser se reposer demain, ça permettrait de continuer dans la récupération de la blessure.
Ouais, j'espère qu'ils vont pas le faire jouer.
Non, je pense pas.
Ça risque pas d'être un match trop compliqué. Y a pas d'intérêt de le surmener comme ça. Voilà, pour ce qui est du PSG, est-ce que tu peux nous rappeler maintenant les tirages qu'il y a eu
Oui, bah déjà Lens qui avait gagné face à Séville la semaine dernière, mais on avait déjà parlé dans l'émission puisque c'était pendant l'émission. Ils affronteront Fribourg en 16e de finale de Ligue Europa puisqu'ils ont été déversés en finissant 3e de leur poule en Ligue Europa. Tout comme Marseille qui jouera face au Shakhtar en 16e puisqu'ils ont perdu face à Brighton 1-0. Et si ils gagnaient ou ils faisaient nul à ce match, ils étaient tout simplement directement qualifiés en 8e, mais ils ont malheureusement perdu. Brighton leur est passé devant, ils sont
aurait but quasiment dans les dernières secondes du match.
89e de jeu. 89e minute de jeu qui ça fait mal, tout comme Rennes. Je sais pas si vous avez vu
ouais,
les gars.
Non, mais Rennes, ça faut qu'on en parle, oui.
C'est quelque chose de complètement fou qui s'est passé.
Ah non, mais c'est
tu veux expliquer?
C'est le palmacho quoi le sur cette VAR là, c'est on a un coup franc de
Lefebvre,
voilà, Lefebvre. Qui je sais pas combien il est en distance, mais
25 mètres,
ouais. Il tire, ça rebondit sur la barre. Ça lui retombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait une passe d'ailleurs.
Il centre, oui, il centre.
Ouais, c'est ça.
Et
derrière le ballon continue de tourner, il y a pas
il est juste dévié le ballon et ensuite c'est Seignon qui marque. Du coup, on était à la 96e, ouais. Rennes perdait 3-2 et n'était pas premier de son groupe et s'ils marquaient, ils étaient tout simplement premiers. Donc tout le stade explose, les joueurs vont célébrer. Et l'arbitre est appelé par la VAR pour une soi-disant règle.
Alors, au final, on ne sait pas trop si c'est la règle 13. C'est la fameuse règle 13, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu la connaissais en tant que joueur?
Non, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'était vraiment étonnant. Ouais. Et en fait, la règle dit que si un coup franc est tiré, qu'elle touche un montant...
Et un pénalty aussi.
Oui, un pénalty aussi. Mais ça, je le savais, un pénalty. Mais je ne savais pas pour un coup franc. Et si le montant est touché et que c'est le même joueur qui le retouche, enfin que c'est le premier joueur à retoucher le ballon, et tout simplement le but ne peut pas être validé. Et donc Rennes finit par perdre 3-2 et doit passer en 16e. Et en plus, il se retrouve à faire un match face à l'AC Milan qui va être un match un aller-retour très très compliqué.
Ah, voilà.
C'est vraiment la double punition pour les Rennes. Alors.
Et c'est surtout qu'après, ça a été dit... Ah mais non, mais en fait, il y a un hors-jeu.
Ils ont dit hors-jeu après. Alors,
apparemment, ça a été reclassifié en hors-jeu, mais apparemment, c'est vraiment cette règle-là qui a été...
Ah oui, du coup, oui.
C'est la première chose qui est arrivée, la règle. Donc,
mais c'est là que tu te dis...
Moi,
c'est des règles que personne ne connaît. Enfin, j'entendais ça sur une chaîne de Radio Sport. Courbis disait que lui, il était au courant. En fait, lui, il l'a quasiment expliqué en direct que ça pouvait être ça. Sauf que tu te rends compte qu'il y a personne qui la connaît. Et j'ai envie de dire, si on analysait tous les coups francs ou pénalty qu'on tapait sur une barre, et je pense que c'est encore plus flagrant sur les pénalty du coup.
C'est annulé à chaque fois. C'est surtout en fait c'est que les pénalties souvent ils sont arrêtés par les gardiens et si un gardien par exemple l'arrête et que la met le ballon sur le poteau et que ça revient sur un joueur, c'est pas compté comme la règle puisque il y a déjà un joueur qui l'a touché.
C'est vraiment uniquement le montant.
Ouais, donc c'est très rare parce que quand ça touche le montant, c'est rare que le ballon revienne directement sur le joueur.
Sur un coup franc.
Mais enfin, tout cas, c'est une règle anti-jeu, ça se retourne sur toi.
Ça fait mal quand même.
Il doit faire quoi? Il doit faire une passe. C'est débile, enfin c'est
c'est comme ça, on peut plus rien y faire.
Puis la FIFA et puis l'UEFA va pas se penser là-dessus, tu sais.
Oui,
c'est bien le problème.
Mais en tout cas il tape Milan. En fait j'ai envie de dire c'est à la fois une bonne chose parce qu'ils vont c'est un match,
ils ont rien à perdre,
voilà. Ça me fait un peu penser à Nantes l'année dernière qui tape la Juve, tu vois. Mais à la fois je me dis que Rennes ils auraient quand même pu passer. Alors que là, il tape Milan. J'aime beaucoup nos amis rennais, mais ça risque d'être très compliqué pour eux. Alors que ici, taper, peut-être Fribourg à la place de Lens. Ils avaient carrément une chance.
Même pas, ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes.
Ouais, ils avaient ce but.
Après, c'est l'espèce de format qui veut ça.
Moi,
j'ai jamais trouvé ça logique. Pourquoi le troisième de la coupe? Enfin, de la Ligue des Champions a le droit d'aller dans une autre coupe.
Ça donne une deuxième chance. Je trouve ça pas trop mal non plus.
Mais alors tu finis deuxième de ton groupe, tu te fais avoir parce que tu dois faire un tour préliminaire pour continuer, tu vois. Enfin, c'est
C'est ouais, après faut avoir de la chance sur le tirage.
Hein. Bon, alors après ça sent tout ça, je pense ça va disparaître l'année prochaine.
Ouais, avec les nouveaux formats.
Avec les nouveaux formats, donc
comme il y aura beaucoup plus d'équipes en Ligue des Champions.
Ouais. Oui, c'est ça.
Et après le t'as dit ou pas Toulouse ?
Non, Toulouse je vais en parler, du coup ils joueront aussi les 16e. Bah décidément, on a 4 clubs qui jouent les 16e en Europa League, ça va être intéressant à suivre. Ils ont également, oui, je l'ai dit, après leur victoire face au Linz Ask 2-1, et ils devront réaliser un exploit et battre le Benfica qui n'est pas un simple concurrent.
Non, ouais, c'est français, hein, le Benfica.
Un gros morceau, je voulais dire, voilà.
Non, ça va pas être facile. Bon, après, ils l'ont déjà fait contre Liverpool.
Ouais.
On y c'est croit, sûr, évidemment, ouais. Hein, même si
sur un malentendu, ça peut marcher.
Exactement, comme il avait sorti leur tifo contre Liverpool. Voilà, je pense qu'ils ont rien à perdre. Toulouse, pareil, un peu comme Rennes. Benfica, c'est un club un peu qui a une belle renommée quand même. Ouais. Ils vont remplir leur stade, ça va être cool. C'est un beau match. On va voir un club mythique comme ça à Toulouse, c'est pas tous les jours.
Ah, il y a quand même l'indice UEFA à soigner, c'est ça le truc.
Oui, aussi. Ouais, bah oui, tous les clubs français sont.
Ouais.
Ah, déjà avec
en phase finale.
C'est pas avec la qualification de Lille, je crois l'indice UEFA de la France est repassé devant celui des Pays-Bas.
Ouais, on était passé, je crois après la victoire même de Lens, on passait devant.
Ah ouais.
Enfin la qualification de.
Bon bah dans tous les cas on est repassé devant.
Ouais.
En tout cas, on est repassé.
Il y a très peu d'écart par contre, ça peut aller très vite.
Ouais, je crois que c'est ça, on aura 4 équipes l'année prochaine du coup pour la nouvelle Ligue des Champions.
Super.
Voilà. Et je vais aussi donner maintenant le tirage de tous les 8e de Ligue des Champions. Donc comme tu l'as dit, le PSG qui se tape la Real Sociedad. On a aussi Naples qui jouera Barcelone, un Porto Arsenal, Inter Atlético de Madrid, PSV. Le PSV contre Dortmund, la Lazio contre le Bayern, le Leipzig contre le Real de Madrid, et enfin mes chouchous Copenhague qui se tape Manchester City. J'y crois dur comme fer. Ça va faire 4-0, et ils passent en quart de finale sans problème.
Sans pénalty, bien sûr, pour aller se qualifier.
Voilà, moi j'y crois, il n'y a pas de souci. Je les connais bien mes joueurs. C'est
donc tu vois deux matchs nuls.
Voilà, deux matchs nuls et ils gagnent à la fin au péno. C'est pile ce qui va se passer. Retenez ça.
En tout cas, Arsenal qui a fait un bon tirage, je trouve aussi.
Ouais, Arsenal, ils jouent Porto, ils s'en sortent bien. Ah ouais, c'est surtout le PSG hein, qui a
tiré le plus gros lot. Ouais.
Ouais, là, c'est
même si ça va pas être facile, ouais, je pense.
Bah, franchement,
tu tires le plus faible des.
Oui, au vu de ce qu'il y avait, mais le match ne va pas être facile non plus. Mais bon, c'est quand même une honte s'il ne passe pas, je pense.
Oui, clairement, c'est ça. Sachant qu'à la Real Sociedad, d'accord, il y a Mohamed Ali Chou.
Oui.
Ouais, voilà, ça va être beau. Il va revenir jouer sur le sol français après avoir quitté le
SCO l'année dernière.
Voilà, c'est beau comme son parcours. Il arrive jusqu'en 8e de finale après avoir quitté le SCO.
Surtout après avoir tapé 2 fois l'Inter.
Ouais. En poule, du coup l'Inter qui finit deuxième et qui joue l'Atlético qui ont pas de chance non plus, ils tapent un gros cadet des deuxièmes en finissant près de leur groupe évidemment. Donc voilà un autre match moi quand je pense qu'il va être intéressant, c'est le PSV contre Dortmund.
Le PSV, le PSV
a perdu un match en Eurodivise, donc en championnat hollandais, et là qui joue Dortmund, ça peut être un beau match et je pense qu'on peut avoir une surprise avec le PSV qui passe.
Oui, bah, si Dortmund il pouvait être sympa avec les clubs français, hop, comme ça, bye bye, et puis nous on continue nos routes.
Voilà, tout à fait. Bon, voilà pour ce qui est de l'Europe dans le football. On va maintenant passer au handball avec les Françaises qui sont championnes du monde pour la 3e fois de leur histoire. Elles ont réussi un parcours sans faute en encaissant aucune défaite et en dominant même à 2 reprises les Norvégiennes qui étaient championnes du monde en titre. Elles ont ainsi pu prendre leur revanche en finale de 2019 où elles avaient donc perdu face aux Norvégiennes. C'était vraiment une très belle Coupe du Monde de la part des Françaises. On a eu peur au début parce que contre l'Angola, elles avaient gagné que 2 buts. Mais après, vraiment, elles ont déroulé en phase de poule, après dans toutes les phases éliminatoires. Et en finale, pareil, un match dominé du début jusqu'à la fin. Franchement, un parcours sans faute. C'est magnifique, voilà, pour les chanceux qui ont pu voir le match. Donc tu ne fais pas partie, Cédric, parce que tu t'étais trompé d'horaire.
Partiellement. Hein.
mais c'était vraiment un beau match et en plus une belle conclusion à la fin avec les Françaises qui finissent championnes du monde. Ça annonce du beau aussi pour les JO qui arrivent cet été et les handballeuses françaises qui peuvent viser gros, qui peuvent viser le titre. Carrément, on peut se le dire.
Elles sont dans les favoris. Bon, je pense que les favoris, c'est la Norvège et la France.
Bah, clairement, oui.
On va sûrement les retrouver, je pense.
Alex.
Il y a toujours la Suède, hein. Faut toujours se méfier des
équipes. Oui, aussi la Suède.
Suédoise.
Alex.
Enfin, des équipes suédoises, plutôt.
Qui est un peu plus qualifié que nous, je pense, pour parler de handball, parce qu'il s'y connaît beaucoup. Il nous avait dit clairement que la finale, ce serait France-Norvège, même si c'était dans le même pool. Ça a pas manqué, hein. Et les Françaises qui l'ont remporté après. Donc c'est clairement les grosses têtes d'affiche de la scène mondiale du handball féminin.
Et surtout peut-être à retenir la jeunesse de cette équipe
de l'équipe de France.
Bah oui, qui promet, ouais,
ça, qui va perdurer dans le temps. Voilà, c'est génial. Maintenant, j'ai parlé un peu de NBA et les Spurs. Les Spurs, mon Dieu, ils ont enfin gagné un match. Voilà, ils ont mis fin à leur giga série de 17 défaites. Ils font comme Cholet, mais avec 10 défaites de plus. Ils mettent fin au bout de 17. Cholet a mis fin au bout de 7. Voilà, bon, ça fait plaisir. Et pas contre n'importe qui en plus. C'était contre les Lakers de LeBron James sur le score de 129 à 115, donc une victoire de 18 points, de 19 points. C'est beaucoup et contre les Lakers de LeBron James, voilà, sachant que petite stat qui fait plaisir, LeBron James a été drafté en 2003, Victor Wembanyama est né en 2004. Voilà, ça fait c'est juste pour dire la longévité du type. On a vu Wemby vraiment heureux aussi après cette victoire et ça fait très plaisir de voir ça vraiment. Les Spurs regoûtés à la victoire, c'est comme ça qu'on apprend peut-être aussi, parce que apprendre, oui, apprendre de 40 points, ça fait pas forcément du bien. Autre actualité en NBA, c'est dimanche soir, Stephen Curry a mis seulement 7 points. Et dans ces 7 points, il n'y avait aucun 3 points. C'est une chose qui n'était pas arrivée depuis le 1er décembre 2018. Ça fait un peu plus de 5 ans, soit 268 matchs que Stephen Curry n'avait pas mis un 3 points dans un match. C'est aberrant, j'ai envie de dire.
Est-ce qu'il a mis au moins des 2 points?
Ah oui, bah, il a mis 7 points. Donc,
il a mis des... Ah, il pourrait tout marquer sur
que des lancers.
Ah, dans les 5 ans? J'ai pas la stat. J'imagine que oui, en vrai. Même si, peut-être pas. Hein. On sait jamais.
Non, mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup de rentabilité sur un match. Hein.
Ouais, là, 5 ans, c'est...
Je pense que t'es coach, tu le sors direct, quoi. Enfin, c'est...
Comment ça? Tu le vois, là, quand tu le vois à ce match-là, mettre que 7 points, 103 points?
Ouais, parce que ça veut dire que... Enfin, il a tenté entre-temps, quand même.
Ah ouais, il a tiré à 8. Il a tiré à 8, il en a mis 0. Il y a des soirs sans, j'ai envie de dire.
Ouais, hein, bah, pour ça, c'est... Fin...
Mais bon, c'est un joueur qui peut prendre feu à n'importe quel moment, tu vois, le coach, je pense, là, j'ai pas ces minutes là, mais je pense qu'il il a fait jouer au moins 30 minutes, un truc comme ça, quand même.
Ça fait quand même long, hein, sur la longueur du match, que 8 tirs, enfin.
Bah, 8-3 points.
8-3 points, ok. Ah oui, t'as pas la stat de...
Non, il a dû prendre en plus 6 ou 7, 2 points, tu vois, mais il a pris aussi quelques lancers francs, ça fait qu'il a 7 points et pas qui est un nombre impair.
Mais on lui pardonne.
Oui, voilà. Même si ça aurait été beau, imagine, il mettait des 3 points jusqu'à la fin de sa carrière.
Ouais.
Ça aurait été stylé quand même.
C'est vrai.
Voilà, autre chose, c'est, je sais pas si vous aviez vu les images de Draymond Green qui étranglait...
Il a pas touché, il a juste voulu se retourner, voilà, le bras il est venu contre la tête.
Voilà, c'est ça, il a mis...
Je crois que c'est sa défense en plus officiellement.
Oui, c'est ça, il se faisait pousser parce qu'en fait il a mis... une bonne grosse patate, j'ai envie de dire, dans la tête à Yusuf Nurkic. Il y avait un duel au poste bas, Yusuf Nurkic le poussait un peu, bam, il se retourne, gros coup de poing. Voilà, il est exclu pour une durée indéterminée. Ça c'est cool, ça fait du bien, c'était la faute de trop, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il avait littéralement étranglé Rudy Gobert qui n'avait rien demandé,
il était juste en train de séparer une bagarre.
L'année dernière, il avait marché sur le thorax de Domantas Sabonis sans raison valable. Bon, pourquoi pas.
Aime bien. Ouais.
Voilà, quand des fois ça lui prend, il va peut-être se reconvertir au MMA dans quelques années, je sais pas. Mais en tout cas, là, il joue plus pendant une durée indéterminée. Il y a eu des rumeurs de 3 semaines. Bon, ça reste à confirmer.
3 semaines, ça serait très peu quand même.
Oui, je trouve ça peu aussi.
Parce qu'apparemment, il y a un tarif en plus de prévu pour ce genre d'action.
Ouais,
il va prendre... a déjà été plus ou moins piqué, je crois, par le passé.
Ouais, ouais, il va prendre une grosse amende. Il doit avoir quelques matchs de sursis déjà.
Moi, j'ai pu voir passer une 20aine de matchs.
Ouais, c'est possible. Hein. Il y a rien qui a été annoncé officiellement
non,
par la NBA.
Ouais,
ça reste que des rumeurs, mais en tout cas, on attend le jugement de la NBA. En tout cas.
Surtout que la NBA maintenant fait beaucoup plus attention à ça.
Oui. Ouais, ouais.
Indirectement, en fait, il est pas forcément sanctionné pour le geste, mais c'est surtout pour le préjudice qui porte à la marque.
Oui, aussi, oui, ça. Là. Parce que ouais, la NBA, c'est une vraie industrie.
C'est pour ça que les amendes limite sont beaucoup plus importantes que le. Enfin, limite, ce que tu perds en match, c'est ce que tu vas payer en amende.
Ouais, c'est ça. Je crois, avant cette faute-là, il y avait une stat qui était tombée où, genre, il avait perdu en tout 500 000, non, plus 5 millions de dollars, un truc comme ça dans sa carrière. Enfin, n'importe quoi.
Après, il aura le temps d'aller à Las Vegas pour se refaire, à défaut d'aller jouer un Final Four là-bas.
Ah, bah oui, je pense. Une autre actualité, le dernier événement, j'allais dire, de cette semaine, c'est le nouveau record de franchise du nombre de points dans un match chez les Milwaukee Bucks, qui a été établi par Giannis Antetokounmpo avec ses 64 points contre les Pacers. Le problème, c'est qu'à la fin du match, il a voulu récupérer
encore
son ballon pour le donner à sa mère. Bah ouais, c'est ce qu'il aime bien faire. Mais les Pacers, ils ont décidé de récupérer le ballon avant les Bucks pour l'offrir à leur rookie Oscar Tshiebwe, qui a marqué a priori ses premiers points en NBA, alors que j'ai vérifié, il avait déjà marqué ses premiers points il y a 2 matchs contre les Lakers. Donc Giannis Antetokounmpo complètement fou de rage, il partit courir dans le vestiaire des Pacers pour récupérer son ballon. Il y avait son frère derrière qui se faisait retenir,
image.
Ouais, c'est assez marrant à voir, hein.
Ouais, c'est sûr.
Bon, au final, il a pas récupéré son ballon. Mais ils lui ont donné un, ils lui ont dit ouais, t'inquiète, c'est le ballon du match. Que nini, il a cramé la supercherie, il a fait le cher connaître un ballon du match, et c'est pas celui-là, il a dit ça en conférence de presse. Il a dit je vais quand même le donner à ma mère, mais bon, c'est pas cool. Et quelques matchs après, il a battu le record de rebond all-time de la franchise. Et cette fois-ci, à la fin du match, les dirigeants des Bucks sont allés directement chercher le ballon dans la main des arbitres et ils l'ont sécurisé pour le ramener au vestiaire pour que Giannis puisse l'offrir à sa mère. Donc c'est assez marrant, moi, je trouve, de voir ça.
Quel radin, il aurait pu acheter des ballons à sa mère quand même.
Il est obligé d'en piquer au match.
Ouais. Non, sinon, moi, j'avais une autre solution, hein. De le couper en deux.
Ça nous fait un beau ballon.
Bah, regarde, s'il en récupère un à chaque fois.
Ouais, ça fait des ballons.
Au bout d'un moment, hop, tu les colles. C'est...
Ouais, des petits bouts de scotch et voilà.
Tu fais un patchwork de tous les ballons de tous les matchs où t'as. Et à la fin, t'as tout et de récompense, tu vois.
T'as une belle collection de demi-ballons.
C'est ça.
Ça fait plaisir. Voilà, je pense que 20h57, l'émission touche à sa fin. On va vous retrouver la semaine prochaine. Oui, a priori, il y a une émission la semaine prochaine.
Non, on va voir ça, mais c'est potentiellement possible.
Voilà, ce sera le 26.
On sera sûrement sur plus une émission, j'ai envie de dire, tout en détente, voilà, parce que l'actualité se fera
maigre.
Maigre, oui.
Ouais, et puis ce sera juste après les fêtes, on aura bien mangé le 24 et le 25.
On testera de savoir si les rennes ont battu le record du monde de livrage de cadeaux. Ouais.
Est-ce que le Père Noël passera
le Père Noël, voilà. Est-ce qu'il va réussir son record de autant de cheminées que l'année dernière, tout
on
ça.
On tiendra au courant la semaine prochaine. Voilà. En attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et à la semaine prochaine.
Voilà.